Merci d'écouter RFI, il est 5h ici à Paris, 1h de moins en temps universel. Le journal avec vous, Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Simon Bourtembourg et à tout à l'heure. Bienvenue, bon réveil. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 25 février 2025. Ravi de vous accueillir, voici les titres de l'actualité internationale. À la une, sourire, poignée de main et tape dans le dos à la Maison Blanche entre Donald Trump et Emmanuel Macron qui ont dit s'être compris sur le dossier ukrainien. Le président français et les partenaires européens qui espèrent timidement un accord de trêve au lendemain des 3 ans de la guerre en Ukraine. Guerre qui fait toujours rage sur le front et dans le ciel, nous dira Franck Alexandre. Au moins 7000 morts depuis le début du mois de janvier dans l'est de la RDC, dans les combats entre la FRDC et le M23 soutenu par le Rwanda. Pour la plupart des civils, chiffre avancé par le gouvernement congolais, la première ministre, Judith Suminwa, était hier à Genève devant le Conseil des droits de l'homme. En Allemagne, Friedrich Merz, à la recherche d'une coalition, le chef de la CDU, probable futur chancelier du pays. Nous reviendrons sur son programme environnemental et sur son objectif de neutralité carbone pour 2045. Et puis enfin, dans les tribunaux français, ouverture du procès Le Squarneck à Vannes, hier dans l'ouest du pays, affaire retentissante de pédocriminalité. Tandis qu'à Montpellier, dans le sud, le procès de l'influenceur algérien Doualemne anime l'actualité judiciaire. On fera le point en fin de journal. Nous voulons la paix en Ukraine, on dit de concert Emmanuel Macron et Donald Trump. Reste à savoir à quel prix. Le président français se rendait pour la première fois à la Maison Blanche depuis le retour du Républicain, le retour au pouvoir le 20 janvier dernier. Emmanuel Macron a déclaré qu'une trêve en Ukraine pourrait être conclue dans les semaines à venir. Nous nous sommes compris, a-t-il dit, sans beaucoup plus de détails, alors que les Européens craignent depuis plusieurs semaines un accord trop favorable à la Russie. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Ils ont passé une bonne partie de la journée ensemble dans le bureau ovale. Après quelques jours tendus, où il a notamment accusé Volodymyr Zelensky d'être un dictateur sans élection qui a commencé la guerre, Donald Trump annonce une rencontre prochaine avec le président ukrainien et l'imminence d'un accord qui donnerait aux États-Unis un accès aux ressources minières ukrainiennes. Bref, de quoi créer un lien économique qui garantirait l'intérêt américain dans le maintien de la paix, selon Emmanuel Macron.
Ce que vient de dire à l'instant, le président Trump est très important, c'est-à-dire qu'il va rencontrer rapidement le président Zelensky pour signer cet accord sur les minerais critiques et les terres rares. Et c'est aussi un moyen d'avoir une implication américaine forte. Et l'implication dans la durée des États-Unis d'Amérique à travers cet accord est une bonne chose.
Dans ces conditions, certains pays européens sont prêts à envoyer des soldats pour participer au maintien de la paix. Mais l'engagement de Donald Trump pour soutenir ce dispositif est encore un peu flou.
Les pays européens seront impliqués, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de trop d'appui. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Une fois qu'un accord sera signé, la Russie retournera à ses affaires, et l'Ukraine et l'Europe aussi. Et je ne pense pas qu'il y aura de problème.
Il reste encore beaucoup de discussions à mener, mais la partie française estime qu'elle a fait entendre clairement son message. Guillaume Nona, Washington. RFI.
Et Vladimir Poutine a lui aussi pris la parole ce lundi. Il a affirmé que les Européens, mis de côté dans le dossier ukrainien ces dernières semaines, pourraient participer au règlement du conflit. Russes et Américains sont dans le même ton. Les États-Unis qui saluent par ailleurs un accord historique du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine. Les Américains qui ont voté avec la Russie une résolution assez neutre, sans condamnation de Moscou, qui n'aborde pas la question de la défense des frontières de l'Ukraine. L'Ukraine où les dirigeants du monde entier ont afflué hier pour les 3 ans du début de l'invasion russe. Sur le terrain militaire, aucun des deux camps n'est parvenu à prendre le dessus dans les airs depuis le 24 février 2022. Une bataille du ciel que nous résume Franck Alexandre.
En mer Noire, grâce à des drones navals d'attaque, mais aussi grâce à des missiles de précision occidentaux, Kiev est parvenu à repousser et rendre inopérante la flotte russe. En revanche, dans le ciel ukrainien, il n'y a pas eu de domination. Ni les Russes, ni les Ukrainiens, malgré la récente arrivée de F-16 et de Mirage français, note Jean-Christophe Noël, chercheur à l'IFRI, ne sont parvenus à gagner la supériorité aérienne.
Les Russes ont essayé, mais ils n'avaient pas les moyens pour détruire tout ce qui était batterie solaire ukrainienne. Et donc, ils ont été chassés en quelque sorte du ciel au-dessus de l'Ukraine. Et les Ukrainiens n'ont jamais eu non plus les moyens d'aller inquiéter les Russes, de se rapprocher du front. Et donc, on assiste à une situation assez particulière où finalement, chacun est plus ou moins le maître chez lui, mais était incapable de traverser cette espèce de ligne de front pour aller attaquer de l'autre côté. Et donc, il faut trouver d'autres moyens pour avoir une puissance de feu importante qui vient du ciel. Donc, c'est ce qu'ont fait, par exemple, les Russes, notamment, avec ces fameuses bombes planantes, et les Ukrainiens, utilisant les drones aujourd'hui, qui pullulent sur la ligne de front pour freiner l'avancée des Russes.
Le ciel ukrainien reste donc un espace hautement contesté. Chaque partie le sait. Qui est au balcon, disent les aviateurs, retrouve alors une grande liberté d'action et de manœuvre.
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense sur RFI, notre dossier ukrainien, retrouvez également sur notre site internet. Aurore Lartigue, notre consort de la rédaction numérique, est à Kiev. Ses reportages sont à retrouver sur le www.rfi.fr. RFI 5h05 à Paris et à Kinshasa, au moins 7000 morts depuis début janvier dans l'est de la RDC. Pour la plupart des civils, dans le conflit opposant l'armée congolaise au M23, chiffre avancé par le ministère congolais, la première ministre Judith Suminwa était hier à Genève, en Suisse, et elle a pris la parole en marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Alors que l'Union européenne a décidé hier de suspendre le dialogue politique avec le Rwanda, la chef du gouvernement congolais a appelé les partenaires mondiaux à prendre des sanctions contre le groupe armé soutenu par Kigali.
Nous continuons, à ce jour, d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer. Et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est.
À l'est, justement, environ 200 soldats envoyés par la SADC ont quitté hier Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Goma désormais contrôlée par le groupe FCM-23 avec l'appui du Rwanda. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est lui arrivé à Kinshasa hier soir, la CPI, qui a ouvert une enquête sur le conflit au Nord Kivu depuis janvier 2022. En Allemagne, la CDU de Friedrich Merz a remporté les élections législatives anticipées avec près de 29% des voix. Place désormais aux tractations pour créer une grande coalition avant le 20 avril prochain, annonce le parti conservateur. Friedrich Merz, probable futur chancelier du pays, proche des milieux financiers et économiques. L'homme de 69 ans pourrait se rapprocher du SPD, de l'ancien chancelier Olaf Scholz, pour gouverner. Friedrich Merz qui a promis de maintenir l'objectif de neutralité carbone du pays d'ici 2045, même si sa stratégie pour y parvenir est loin d'être claire, Stéphanie Schuller.
Fidèle à leur credo économique, Friedrich Merz et son parti, la CDU, misent sur les mécanismes de marché pour avancer dans la transition écologique. L'instrument clé, la taxation des émissions de CO2, aussi bien pour les ménages que pour l'industrie. Les conservateurs espèrent susciter ainsi un changement de comportement et promettent de soutenir en même temps financièrement les classes sociales les plus défavorisées. Cela n'empêche pas Friedrich Merz de réfléchir à prolonger la durée de vie des centrales à charbon et à construire de nouvelles centrales à gaz. Le déploiement des énergies renouvelables, qui produisent déjà 60% de l'électricité en Allemagne, devrait malgré tout se poursuivre. Dans le secteur du bâtiment, en revanche, le conservateur veut abolir les réglementations climatiques mises en place par le gouvernement sortant et il s'oppose à l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuve à partir de 2035. Christoph Balz, directeur de l'ONG environnementale German Watch, craint que
cela plonge le secteur automobile ainsi que les fabricants de pompes à chaleur dans une grande incertitude. Nous freinons nos industries d'avenir alors que le marché mondial avance.
Friedrich Merz devra de toute façon faire des concessions. Pour gouverner, il aura besoin des sociaux-démocrates dotés, eux, d'une solide politique climatique.
Stéphanie Schuller, du service environnement de RFI. À Rome, en Italie, suite de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité, dernière chance pour dénouer le blocage entre les pays du Nord et ceux du Sud sur les questions de financement pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030. 196 pays signataires de la Convention sur la biodiversité sont conviés à 3 jours de négociations après l'échec de Cali en Colombie en novembre dernier. L'actualité en France, à présent, Joël Le Squarnec reconnaît des actes odieux, des blessures ineffaçables, irremplaçables. Cet ancien chirurgien, jugé depuis ce lundi devant la cour criminelle du Morbihan, à Vannes, dans l'ouest de la France, pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 patients, pour la plupart mineurs, au moment des faits, qui ont eu lieu entre 1989 et 2014. Il s'agit du plus grand procès pour pédocriminalité de l'histoire du pays, procès qui pourrait durer jusqu'au mois de juin. Justice toujours, dans le sud de la France, cette fois-ci 6 mois de sursis requis contre l'influenceur Doualemn au tribunal correctionnel de Montpellier pour provocation à commettre un crime dans une vidéo devenue virale. Le TikToker de 59 ans, aux quelques 138 000 abonnés, tient des propos polémiques. Le préfet de l'Hérault s'en est saisi, ce qui avait failli donner lieu à une expulsion de l'influenceur vers l'Algérie. Retour sur l'affaire avec Sam Spencer.
J'ai fait des bêtises, je me suis emporté et je regrette, souffle l'influenceur algérien Doualemn à la barre, courbé, crâne rasé, appuyé sur une béquille. Il reconnaît avoir publié une vidéo sur le réseau social TikTok appelant à mettre une correction à un opposant au gouvernement algérien. Mais voilà, ça n'est pas cette publication, celle de Doualemn, qui déclenche la machine médiatique et judiciaire, mais une nouvelle version mal traduite, relayée sur le réseau social X par des comptes n'ayant rien à voir avec l'influenceur. C'est ce qu'explique son avocat, maître Jean-Baptiste Mousset.
Cette vidéo, elle fait l'objet d'un montage, vous l'avez compris. Elle a été tronquée de son contexte.
Au cœur des débats, une traduction, donc celle du mot « Gekla » sur la vidéo tronquée. Le mot est traduit par un appel au meurtre, tandis que le prévenu, ainsi que des experts, la traduisent plutôt par raclée ou encore correction.
Ses propos, il ne s'est pas défaussé non plus, il les a reconnus, une correction. Et pour lui, parce que c'est comme ça que sa mère lui parlait, la guette-là, c'est la fessée, c'est la correction.
Dans ses réquisitions, la procureure de la République met fin au débat. Il n'y a pas d'incitation à la haine, mais bien une provocation à commettre un crime. Les faits appellent à une sanction, mais en rapport avec un contexte. Autrement dit, le politique doit rester en dehors des portes du tribunal. Siam Spencer, Montpellier, RFI.
Et le jugement qui sera rendu le 6 mars prochain à Montpellier. On termine sur les terrains de football. En clôture de la 25e journée de Liga, en Espagne, match nul entre Séville et Mallorca, un but partout. Clôture également de la 26e journée de Serie A. En Italie, carton pour l'AS Rome qui l'emporte 4-0 face à Monza. Les Romains qui vont beaucoup mieux après leur qualification pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Et puis pas de vainqueur dans le derby stambouliote entre Galatasaray et Fenerbahçe. 0-0 entre les deux équipes d'Istanbul. Et puis dans un communiqué, les dirigeants de Galatasaray qui ont annoncé porter plainte contre l'entraîneur portugais de Fenerbahçe, un certain José Mourinho. Des propos tenus à l'issue de la rencontre qui ont été jugés racistes et immoraux par Galatasaray. RFI, il est 5h12 ici à Paris, l'info continue.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr. RFI, toute l'actualité.
Martin Guèze.
Et à suivre dans le prochain quart d'heure, ces vagues d'arrestations en Turquie, des maires d'opposition, des journalistes et même des représentants du patronat. Ankara durcit le ton, notamment dans les régions kurdes, nous dira notre correspondante Céline Pierre Magnani. Ça sera ensuite l'heure des Sophie, la grande Sophie, chanteuse célèbre pour son tube Du Courage, qui a pris son courage à deux mains pour écrire un livre, Tous les jours Suzanne, entretien avec Sophie Torlotin. Et puis on retrouvera ensuite Caroline Paré pour le Conseil Santé. On terminera avec les légendes de l'orchestre Baobab, mais tout de suite, notre reportage. Nous sommes à Alep ce matin, au nord-ouest de la Syrie. La Syrie où a débuté hier une nouvelle étape dans la transition, la conférence de dialogue national qui a démarré à Damas. Plusieurs ateliers de discussion sont encore prévus aujourd'hui, notamment sur les libertés individuelles et les droits de l'homme. Les nouvelles autorités qui affirment mener un processus inclusif dans un pays morcelé pour rassurer les nombreuses minorités syriennes, les Kurdes, les Druzes, les Alaouites, les chrétiens aussi, qui sont partagés, un peu rassurés, mais toujours inquiets de voir arriver au pouvoir un groupe islamiste. Reportage à Alep de Guilhem Deltey avec Ahmad Al-Khalaf et les moyens techniques de Bertrand Eclair.
C'est une vieille maison traditionnelle qui porte le nom de l'ex-impératrice autrichienne, Sissi. Avant la guerre, elle accueillait l'un des restaurants les plus huppés d'Alep. Ces beaux jours ont duré jusqu'en 2012, se souvient Georges Najarian, propriétaire des lieux.
Lorsque la guerre a commencé, la ligne de front se trouvait juste à côté. Il y a eu beaucoup de destruction. Nous avons dû fermer le restaurant et mettre le mobilier à l'abri.
Aujourd'hui, Georges Najarian travaille à la réouverture. Retrouver le faste d'antan est certainement encore lointain, mais il espère pouvoir reprendre une partie de son activité dans les prochains jours.
Maintenant, tout va bien et on espère que ça s'améliorera encore. Le restaurant est grand, mais on va commencer par rouvrir juste le café. Et si les affaires marchent bien, nous rouvrirons le reste.
Une foi en l'avenir que ne partagent pas tous les chrétiens d'Alep. Rim Shahoud, elle, ne l'a pas.
Il y a des tensions, de nouvelles tensions même, parce que nous n'avons pas de gouvernement. C'est le chaos. Honnêtement, si on pouvait partir, on partirait.
Et aux inquiétudes économiques et sécuritaires partagées par l'ensemble des communautés s'ajoutent pour les chrétiens d'autres visant leurs droits.
Maintenant, ce qui nous fait peur, c'est qu'on nous impose le voile, qu'on nous empêche d'être libres, ou par exemple qu'on interdise à une fille et un garçon de marcher ensemble. Ça aussi, c'est arrivé, alors ça fait peur.
Des remarques, des pressions dont la fréquence est difficile à quantifier, mais dont tous les chrétiens ont entendu parler depuis la chute du régime Assad. Il s'agit toutefois d'actions de citoyens, pas de consignes des nouvelles autorités, souligne Joseph Tobji, l'archevêque maronite d'Alep.
Sincèrement, on a vu une gentillesse envers les chrétiens. Ils nous ont dit, non, vous êtes un composant essentiel de la patrie, donc n'ayez pas peur. Mais il y a des cas individuels, mais il y en a beaucoup de ça, des cas individuels.
La pression sociale augmente d'autant plus que l'autorité centrale est encore en phase de construction. Et lors de sa rencontre avec le nouveau dirigeant syrien, Ahmed al-Shara, Joseph Tobji a plaidé pour une accélération de la transition. Le temps n'est pas de notre côté, analyse l'archevêque, qui craint une augmentation de l'émigration chrétienne. Et la menace pourrait être existentielle pour une communauté qui a déjà vu partir 80% de ses membres durant la guerre. Bertrand Eclair, Ahmed al-Khalaf, Guilhem Deltaï, Alep, RFI.
Et place ce mardi au deuxième jour de la conférence de dialogue national à Damas. On y reviendra bien sûr sur RFI et sur RFI.fr. De l'autre côté de la frontière nord syrienne, nous voilà en Turquie. Ambiance politique très tendue dans le pays, avec de nombreuses vagues d'arrestations, des maires d'opposition, des journalistes, des militants politiques. Même le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, est visé par des poursuites judiciaires. On fait le point avec Céline Pirmagnani, correspondante de RFI à Ankara, la capitale turque. Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors pas un jour en Turquie sans de nouvelles arrestations contre l'opposition. Ce lundi par exemple, c'est un maire d'arrondissement de la grande municipalité de Kars dans le nord-est du pays qui a été arrêté.
Oui, en effet, hier c'était au tour du maire de la petite ville de Kazman, près de la frontière avec l'Arménie, d'être démis de ses fonctions. Mehmet Alkan est membre du parti pro-kurde du DEM. Il a pourtant été élu démocratiquement en mars 2024, mais il a été condamné par la justice à 6 ans et 3 mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste, et il a été remplacé par un administrateur d'État. C'est le 12e maire de l'opposition à subir le même sort en moins d'un an. Le pouvoir renoue ainsi avec des pratiques autoritaires qui avaient marqué la fin des années 2010, notamment dans les régions kurdes. Mais les élus ne sont pas les seuls à être inquiétés par la justice ces dernières semaines. Les représentants de la puissante organisation patronale, la TUSIAD, ont subi les foudres d'Erdogan pour avoir critiqué la dérive autoritaire du pouvoir. Mais aussi une trentaine de journalistes, artistes et militants politiques ont été emprisonnés la semaine dernière. Il existe une certaine cohérence quand on regarde les profils des personnes ciblées. Il s'agit soit de voix critiques de l'effondrement de l'état de droit en Turquie, soit de personnalités actives sur le dossier kurde.
C'est l'une des exemples qui s'accumulent et même le barreau d'Istanbul est dans le viseur de la justice. Pourtant, c'est une chambre professionnelle respectée dans le pays. Alors pourquoi est-elle dans le viseur justement de la justice turque ?
Eh bien, le barreau fait partie des deux catégories que je viens de citer. C'est une chambre professionnelle qui critique sans relâche l'effondrement de l'état de droit en Turquie, et elle n'hésite pas à se positionner sur la question kurde. C'est la raison pour laquelle une procédure a été lancée le 22 décembre dernier pour propagande terroriste. Le barreau avait en effet réagi à l'assassinat de deux journalistes d'origine kurde par des drones turcs. Nazim Dashtan et Cihan Bilgin couvraient les combats entre les forces pro-kurdes et les forces pro-turques dans le nord de la Syrie quand ils ont été abattus. Pour rappel, le pouvoir a relancé un dialogue avec le mouvement kurde à l'automne et il pourrait même aboutir à l'annonce de la dissolution de l'organisation armée du PKK dans les prochaines semaines. Mais avec toutes ces arrestations, les autorités envoient un message clair. La neutralisation du PKK est l'unique objectif de la démarche et un retour à des pratiques respectueuses des principes démocratiques n'est visiblement pas au programme.
Merci Céline Pirmagnani, correspondante de RFI à Ankara. On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 7h20 en universel. Ce sera avec Clotilde Dumay. RFI 5h19, tout pile à Paris. C'est l'heure des Sophies, de la grande. D'abord la grande Sophie, chanteuse et compositrice. Connue en France pour son tube « Du courage ». L'artiste est aussi auteur et elle vient de publier un livre épistolaire intitulé « Tous les jours Suzanne ». Une centaine de lettres écrites à une interlocutrice mystérieuse, la grande Sophie qui s'est confiée à notre Sophie, à nous, Sophie Torlotin du service culture de RFI Entretien.
Regarde-moi, j'ai bien changé, Suzanne. Bonjour la grande Sophie.
Bonjour.
Suzanne apparaissait dans une chanson de votre album La Place du Fantôme. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à écrire cette sorte d'alter ego, de confidente?
Eh bien, vous avez raison, Suzanne. La chanson a été la première lettre que j'ai écrite sur l'album La Place du Fantôme. Et j'avais besoin de me confier. C'est un moment un petit peu particulier dans ma vie que je laisse découvrir au lecteur. Et ça faisait du bien de lui raconter tout ça.
Qu'as-tu fait de mes étoiles, Suzanne, au fond de mes yeux?
C'est un livre épistolaire, tous les jours Suzanne, vous vous confiez beaucoup, enfin vraiment on pénètre dans votre intimité.
C'est la première fois, je crois, que je me livre autant. Je me suis posé la question d'ailleurs si j'étais pas impudique, parce que moi la pudique en fait, c'est une autre forme d'écriture pour moi qui était intéressante par rapport au format chanson, de ne pas suivre les notes de la musique et de ne pas se donner de limites.
Parce que dans ce livre, La Grande Sophie, il y a des longues lettres, il y en a des plus courtes, il y a le quotidien et puis il y a votre retour sur votre enfance, vos parents, votre compagnon, votre inséparable, comme vous dites, vos amis. Tout est un peu mélangé comme une boule à facettes, non ?
J'ai essayé de m'appuyer sur mon parcours pour raconter d'où je viens, tout ce qui s'est construit au fur et à mesure avec ces années, puisque mon parcours est très atypique, je trouve. Je suis pas l'artiste qui a explosé avec un tube dès son premier album. Non, j'ai petit à petit, j'ai construit, je suis passée par la scène. C'est des choix que j'ai faits. Donc j'ai eu envie d'écrire ce livre et de faire aussi l'adaptation pour l'amener sur scène.
Tu n'existes pas, Suzanne. Pourtant je te parle. Pourtant je te parle.
Est-ce que pour ce livre qui s'intitule Tous les jours, Suzanne, vous êtes astreinte à écrire tous les jours ?
Alors, il y a eu cette première lettre dont je vous ai parlé, qui est la chanson. De 2010, je suis passée après, j'ai approché la cinquantaine ces dernières années. Et j'ai eu besoin de raconter, de retrouver Suzanne. Parce que Suzanne, elle était présente chaque soir dans les salles. Je la chantais, elle avait une aura. Le public l'attendait, c'était assez particulier. Je pense qu'il ressentait une intimité avec cette chanson. Et je trouve que dans mon métier, passé la cinquantaine, c'est un âge assez ingrat dans mon métier, qui est un métier très jeune, et on vous le fait ressentir.
Un âge ingrat pour tous les chanteurs ou pour les chanteuses? Alors, en particulier?
Je pense que c'est globalement pour tous les chanteurs, mais on est bien d'accord que les chanteuses, le degré est plus élevé pour les femmes. Malheureusement, c'est comme ça dans la vie. Et moi, j'ai eu besoin de revenir sur tout ce que j'avais fait, moi l'autodidacte, moi la réservée, mais la plus déterminée, c'est ce que je dis dans le livre. J'ai eu besoin de revenir sur chaque étape de mon parcours pour me redonner confiance, puisque tout ça, je l'avais fait. Et dans mon métier, on vous le fait oublier, en fait. Et à travers ce livre, justement, je montre aussi qu'on peut se donner d'autres directions à mon âge. On peut être encore sur scène, on peut avoir des envies, des idées, et ça peut rester un plaisir. Donc tout ça, je m'en suis rendu compte en revenant sur ma carrière, en fait, puisque 9 albums, c'est pas rien, 4 disques d'or non plus, 2 victoires de la musique, c'est une carrière.
Merci la grande Sophie.
Merci beaucoup.
La Grande Sophie, avec Sophie Torletin, de La Sagesse partout sur RFI. Et La Grande Sophie, en tournée dans toute la France, sur scène à Nantes notamment, ce jeudi, dans l'ouest du pays.
Le Conseil Santé, avec Suno Assurance.
Et on retrouve Caroline Paré ce matin. Quel virus mobilise les épidémiologistes de la planète en ce moment ? Réponse avec le professeur Arnaud Fontané.
Professeur Arnaud Fontané, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. 5 années après l'émergence du Covid-19, quels sont aujourd'hui les virus, les risques épidémiques qui mobilisent les spécialistes à l'échelle planétaire?
Alors, ils sont nombreux, les virus qui nous mobilisent, de nature assez différente. Il y a actuellement des épidémies de ce qu'on appelle les filovirus, un virus responsable de fièvre hémorragique en Afrique, notamment en Tanzanie avec le virus Marburg, en Ouganda avec le virus Ebola. Il y a aussi une menace forte, hein, qui est celle que représente la grippe aviaire, qui depuis 2 ans circule et touche de plus en plus de mammifères, et notamment aux États-Unis les vaches laitières. Donc on a largement de quoi s'occuper. Et puis je finirai vite avec les arbovirus aussi. La dengue, une épidémie majeure en 2024 au Brésil, comme on n'en avait jamais vu auparavant. Et puis une reprise du chikungunya à l'île de la Réunion, par exemple.
Alors pourquoi la vigilance à l'encontre des maladies émergentes doit demeurer une préoccupation internationale ?
Elle doit demeurer une préoccupation internationale parce que les réponses précoces sont ce que l'on peut faire de mieux dans le démarrage d'une épidémie ou d'une pandémie. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, les épidémies que je citais de Marburg ou d'Ebola semblent contenues, en tout cas, elles sont prises tôt et on a eu Rwanda, notamment en septembre dernier, un vrai succès sur la façon avec laquelle l'épidémie a été gérée. Donc cette surveillance, elle doit être très présente, intense et permettre une réactivité maximum.
Merci professeur Fontanet, vous êtes également professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Aujourd'hui dans Priorité Santé, comment prendre soin de ses genoux? Lésions des ligaments, luxation de la rotule, arthrose. On va parler de la santé de cette articulation, des affections les plus fréquentes, la prévention, la prise en charge. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et voilà qui est bien noté. Merci Caroline Paré. Et à tout à l'heure, nous on va terminer en musique avec les légendes sénégalaises de l'orchestre Baobab. De retour avec Idrissa Diop pour Boulendem. Ne pars pas, restez bien là sur RFI, ça vaut le coup.
Khatinen bëgg jël garçon bu geejgi bu ñëpp démé ko fi dess ñun suñu réew mi ñoko moom ñu rafetal outine bi top bi tek fi mëna nekk té nak ñu bayyi xel suñu bolo bari dolé ñu bëggante suñu bi roy comme ñu ko mag ñi daan défé ñu xol ci lu ñu am nit ku né amna lu ko yalla may nañu tok suñu rew tok fi tek fi mëna nekk
de l'orchestre Baobab avec Idrissa Diop. C'est cadeau offert par les programmateurs de RFI ce mois-ci. Benoît Vandenbroek était à la réalisation, Grégory Lesca à la rédaction en chef. Boulendem, ne partez pas, Nemo en Pis arrive pour le retour de la foi.
De voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
chaque entreprise a son lot d'employés boulets. Comment travailler avec eux et quel rôle peuvent jouer les managers?
Demain,
étoiles, lune, planètes, galaxies, comment débuter en astronomie et initier les enfants même sans équipement sophistiqué?
8 milliards de voisins du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Comment explorer la mécanique intime des fluides ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Il se présente comme un plombier de l'infiniment petit et nous ouvre de nouveaux horizons à l'échelle nano et micro. Rencontre avec l'un des esprits les plus libres de la recherche française, le physicien Lydéric Bocquet partage sa science des ricochets.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.